RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Marion, bonjour à tous. À la une ce matin, les craintes du PAM, le programme alimentaire mondial qui prend en charge aujourd'hui 70 000 Congolais réfugiés au Burundi, mais qui ne sera plus en mesure de le faire d'ici le mois de juillet, faute de fonds supplémentaires. La RDC, où dans le même temps le président lance aujourd'hui des consultations en vue d'élargir le gouvernement, et où le milieu des affaires s'inquiète des conséquences du conflit dans l'Est, conséquences sur le climat économique dans le pays. Dans ce journal également, le Cameroun, l'ONG Mandela Center demande aux autorités de sévir contre les policiers violents. Le Sénégal, quel bilan un an après l'élection à la présidence de l'opposant Bassirou Diomaye Faye. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, qui se félicite de progrès dans la lutte contre la tuberculose, mais pas dans tous les pays du continent. Et puis notre dossier ce matin s'intéresse à la génétique et au patrimoine génétique des Africains, le plus diversifié, mais aussi malheureusement le moins étudié. Dans les conditions actuelles, la situation ne peut qu'empirer, préviennent le HCR, au commissariat de l'ONU aux réfugiés, qui s'est exprimé il y a quelques jours, et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui prend la parole ce matin à propos des Congolais qui ont fui le conflit dans l'est de la RDC et qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, en l'occurrence le Burundi et l'Ouganda. Le HCR en a compté environ 30 000 en Ouganda, 70 000 au Burundi. Des personnes prises en charge aujourd'hui uniquement de manière très sommaire. Et le PAM craint même de ne pas avoir assez d'argent pour prolonger cette aide d'urgence au-delà de quelques mois. Écoutez Christine Koudour, chargée des partenariats au sein du bureau du PAM au Burundi.
Les derniers chiffres du HCR font état de 69 000 personnes qui ont dû fuir l'est de la RDC pour chercher refuge au Burundi. On parle ici principalement de femmes, d'enfants, de personnes âgées totalement démunies qui ont fui en n'emportant pratiquement rien avec elles, si ce n'est les vêtements qu'elles portent. Le PAM a réussi à mobiliser des ressources pour permettre la distribution, la préparation et la distribution de repas chauds, étant donné que ces personnes sont hébergées à l'heure actuelle dans des centres de réception temporaires, comme les écoles et comme les stades. Il y a notamment un stade, le fameux stade de Rugombo, où il y a 40 000 personnes qui sont hébergées dans ce stade. Mais malheureusement, nous avons dû réduire les rations, puisque le nombre de réfugiés ayant doublé, mais les ressources disponibles étant les mêmes. Et à partir du mois de juillet, en l'absence de fonds supplémentaires, nous serons incapables de fournir toute assistance alimentaire. Avec 20 millions de dollars, on pourrait soutenir les 120 000 réfugiés congolais actuellement dépendants de cette assistance alimentaire au Burundi.
Christine Koudour du Programme Alimentaire Mondial au Burundi, l'Est congolais, où d'après nos informations, les rebelles M23 étaient toujours présents hier soir à Walikale-Centre, cette localité du Nord Kivu dont ils se sont emparés en milieu de semaine dernière et dont ils avaient annoncé leur retrait avant-hier dans l'optique, avait-il dit, de favoriser un dialogue avec les autorités congolaises. Alors qu'à Kinshasa, dans le même temps, débutent aujourd'hui des consultations en vue de bâtir un gouvernement d'union nationale. Au programme, des rencontres au cours de ces prochains jours menées par un conseiller spécial du président Félix Tshisekedi avec les forces vives de la nation, même si l'on sait déjà que ces consultations ont été rejetées par la plupart des opposants congolais. Et ce contexte de guerre dans l'Est, il ne plaît pas aux chefs d'entreprise de RDC. L'incertitude liée au conflit n'est pas bonne pour les affaires, écrivent dans une tribune plusieurs membres du réseau d'affaires Makutano, d'autant plus que ce conflit touche deux provinces, le Nord et le Sud Kivu, qui sont clés pour l'économie congolaise, explique ce matin Obed Kambala, analyste indépendant, cadre dans une banque au Nigeria et également l'un des signataires de la tribune.
Déjà, il faut noter que c'est difficile de mesurer avec beaucoup d'exactitude les impacts puisqu'ils sont de plusieurs dimensions. Ils touchent notamment le secteur financier. Il faut dire ici que le Nord et le Sud qui vous représentent, on va dire, plus de 50% de la microfinance en RDC, ils constituent ensemble la troisième région bancaire. après Kinshasa et Katanga. Ce secteur est inopérationnel. Il y a aussi le tourisme, il y a aussi les infrastructures de télécom ont été quelquefois endommagées. On a aussi des cas où il y a des localités entières qui ont été privées de services de télécom. On a entre autres Kichanga et Ngungu. Il y a le manque à gagner fiscal et parafiscal. Il y a moins de recettes et l'impossibilité de l'État de mobiliser ses recettes et d'atteindre ses assignations budgétaires. C'est très inquiétant parce que non seulement les vies sont exposées, les activités sont stoppées et une grande partie des ressources du Congo s'envolent. Donc voilà, c'est inquiétant.
Des propos recueillis par Charlotte Cossé, un jeune homme arrêté pour rien, retenu pendant 2 semaines au commissariat, où il a été torturé. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Au Cameroun, dénonce ce matin l'ONG de défense des droits de l'homme, Mandela Center, et l'organisation demande aux autorités de Yaoundé de prendre des mesures contre ces policiers qui outrepassent leurs droits. Écoutez le juriste Jean-Claude Fognaud, secrétaire exécutif du Mandela Center.
Nous exigeons des autorités camerounaises qu'elles mettent un terme à l'impunité et que les auteurs d'actes de torture ou bien des violations graves des droits humains soient poursuivis, que ces gens-là subissent les foudres de la loi. C'est très important. Chaque fois que nous dénonçons, les auteurs ne sont jamais inquiétés. Nous avons des centaines de cas. Ce qui nous choque davantage, c'est pour le cas de ce jeune homme qui a été interpellé depuis pratiquement 14 jours pour une histoire de vol de téléphone alors qu'il n'était même pas dans la ville. Dans les locaux du commissariat, les policiers se sont mis justement à des actes de torture avec des machettes, avec des gourdins et tout ça. Et ce que nous dénonçons, c'est que justement, il s'agit là d'une pratique qui se généralise au Cameroun. Il va falloir que tout le monde, notamment les forces, les éléments de force de défense de sécurité camerounaise, apprennent aussi à respecter la loi. C'est de ça qu'il est question. Et une fois des cas portés à l'attention de la justice, que la justice fasse effectivement son travail. C'est ce que nous exigeons des autorités camerounaises.
Jean-Claude Fognaud, le secrétaire exécutif de l'ONG Mandela Center, joint au Cameroun par Guillaume Thibault. RFI, 6h36, à Dakar. Quel bilan, un an après, au Sénégal, le 24 mars 2024, pour la première fois de leur histoire, les Sénégalais élisaient président dès le premier tour un opposant, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, élu sur des promesses de rupture après 2 mandats et 12 ans de pouvoir de Macky Sall. Où en est-on aujourd'hui? À Dakar, la correspondance de Léa-Lisa Westerhoff.
Élu avec la promesse de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, la nouvelle équipe au pouvoir a très vite lancé une série d'audits. Même si certains, comme ceux sur les contrats miniers et pétroliers, tardent à donner des résultats, l'audit des finances publiques sur les 5 dernières années représente un marqueur de la bonne gouvernance et un symbole de la transparence revendiquée par les nouvelles autorités. Dans la même veine, 2 institutions jugées trop budgétivores ont également été supprimées. Des assises de la justice avec la société civile ont été organisées dans une démarche qui se veut participative. Mais un an après être arrivé au pouvoir, les analystes pointent aussi une certaine lenteur dans les prises de décision du gouvernement. Les recommandations des assises de la justice, par exemple, n'ont pas encore été appliquées. Après 12 mois au pouvoir, le duo Diomaye Sonko fait aussi l'expérience de la difficulté de financer des réformes avec des comptes publics dans le rouge, hérités de l'administration précédente. Avec une dette qui s'élève à près de 100% du PIB, les nouvelles autorités disposent pour l'heure d'une marge de manœuvre extrêmement limitée pour imprimer la rupture promise lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et on continue d'en parler avec Léa-Lisa Westerhoff, que l'on retrouve dans une demi-heure environ pour le dossier du journal de 8h, heure de Paris, et aussi avec notre invité dans quelques minutes, qui est le secrétaire général du PASTEF, le parti présidentiel sénégalais, interrogé par Christophe Boisbouvier. L'objectif se rapproche, c'est en 2030 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souhaite avoir réussi à éradiquer la tuberculose, cette maladie encore responsable tous les ans de plus d'un million de décès, mais la tuberculose recule année après année, en particulier sur le continent africain, notamment car on peut mieux diagnostiquer et mieux traiter, explique Jean-Louis Abena, conseiller tuberculose auprès de la région Afrique de l'OMS.
C'est la hausse du nombre de cas que nous avons pu identifier et que nous pouvons guérir. Nous avons un taux de guérison de 88%. C'est une grande avancée due aussi à la mise en place d'outils de diagnostic qui sont plus sensibles, des outils moléculaires. Donc c'est un appel à plus de solidarité pour pouvoir lever les finances internes pour pouvoir acheter ces intrants qui sont décisifs pour la lutte contre la tuberculose. Nous avons une réduction de près de 50% de la tuberculose en Afrique du Sud. Nous avons aussi le cas des Eswatini qui ont fait des progrès remarquables. Mais il y a des pays qui sont un peu inquiétants. Il y a le Gabon qui a un taux d'infection parmi les plus élevés d'Afrique et la mortalité ne baisse pas. Il y a la République du Congo qui nécessite qu'on s'y penche un peu plus parce que toute l'Afrique devrait en 2030 être libre du fardeau de tuberculose comme étant un problème de santé publique. L'objectif est ambitieux, mais on ne peut pas baisser l'objectif et il faut mettre tous les efforts en place.
Jean-Louis Abena de l'Organisation mondiale de la santé. Notre dossier ce matin nous emmène en Afrique du Sud. On parle génétique à l'occasion d'un grand sommet consacré au génome. À Durban, en Afrique du Sud, le génome humain qui fait encore l'objet de recherches à l'heure actuelle. Et à Durban, on a aussi abordé les questions d'éthique autour de ces recherches. Claire Bargelès.
Selon la généticienne sud-africaine Michelle Ramsey, la vulgarisation des travaux de génomique est clé pour qu'ils ne soient pas manipulés et instrumentalisés dans des discours racistes.
La notion d'humanité commune est pour moi centrale. Nous avons davantage de choses en commun que des choses qui nous différencient et il faut bien faire entendre ce message. Je pense que la communication scientifique est une clé.
Et la communication doit aussi se faire pour expliquer les études aux participants. Il faut également protéger un maximum la confidentialité. Déborah Ekusai-Sebata est chercheuse en bioéthique à l'université ougandaise de Makerere.
Ces données peuvent avoir des conséquences sociales comme une stigmatisation si jamais il y a une violation de la confidentialité.
La communauté SAN en Afrique du Sud a par exemple rédigé un code éthique pour ceux qui souhaitent mener des recherches auprès d'elle. Les choses changent peu à peu, mais la chercheuse angolaise Maria Chimpolo regrette toujours de voir des scientifiques de pays occidentaux mener des recherches dites hélicoptères sans développer des compétences sur place.
Ils viennent, collectent les échantillons, repartent et publient. C'est tout. Fin de l'histoire. La plupart du temps, il n'y a pas de reconnaissance pour les chercheurs locaux impliqués et même les communautés qui leur fournissent les échantillons n'en tirent aucun bénéfice.
En 2019, une controverse avait poussé un institut de recherche britannique à abandonner la commercialisation d'une puce à ADN créée sans permission à partir de données recueillies en Afrique. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Et aujourd'hui, moins de 2% du génome humain répertorié provient de personnes africaines. Pourtant, pour la généticienne américaine Ada Amosh, par ailleurs présidente de l'Organisation du génome humain, il y a bien un intérêt scientifique général à étudier spécifiquement le génome des Africains et un intérêt aussi pour les Africains eux-mêmes.
Il y a en effet le fardeau du VIH ou encore de la tuberculose résistante. Ce sont d'énormes problèmes qui touchent de larges portions de la population. Tout le monde reconnaît que ce sont de gros défis. Mais il y a aussi les maladies chroniques. Si les gens vivent assez longtemps, ils vont développer des maladies cardiaques ou du diabète. Elles ont des causes environnementales. Le fait de manger certains types de nourriture, de ne pas faire d'exercice, de rester sur une chaise toute la journée, ce n'est bon pour personne. Cependant, elles ont aussi des causes génétiques. Et par exemple, les maladies rénales sont beaucoup plus communes au sein de certaines sections de la population africaine. Nous commençons à comprendre pourquoi, et l'étape suivante, c'est de trouver comment traiter et prévenir cette maladie. Mais si on ne séquence pas, on ne peut pas en déduire les raisons. De plus, ce qui est sûr pour l'Afrique et qui a été mis en place dans certains pays, c'est qu'avoir des capacités de séquençage dans différentes régions permet aussi de réaliser du séquençage rapide d'agents pathogènes. Si une nouvelle maladie se développe, cela permet de comprendre de quoi il s'agit ou quel est le virus en cause. C'est essentiel et on a pu le voir pendant la période du Covid.
Et si le sujet vous intéresse, un grand article de Claire Bargelès est à lire en ce moment sur RFI.fr, onglet Afrique. Enfin, avant de retrouver Marion Kazanov, un mot de football en séjour de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Hier, le Gabon s'est emparé de la première place de son groupe en battant le Kenya 2-1. Les Gabonais resteront-ils premiers? Tout dépendra du résultat du match de la Côte d'Ivoire aujourd'hui contre la Gambie. Au total, il y a 8 rencontres à suivre aujourd'hui avec entre autres Centrafrique, Mali ou encore Madagascar, Ghana, 6h44 en temps universel.